Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les Lorettes, les Grisettes et autres courtisanes d'autrefois sont aujourd'hui au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. L'ouvrage d'Emmanuel Pierrat sur les Lorettes est sous-titré « Paris, capitale mondiale des plaisirs au XIXe siècle ». Qu'ajouter à cela, sinon que l'auteur nous fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Nous allons donc le retrouver juste après le récit qui aujourd'hui est consacré à Nana, le grand roman de Zola, vous savez.
Oui, et tout à l'heure, vers 3h05, vous répondrez à la question posée par Dominique sur la page Facebook de l'émission. Dominique voudrait connaître l'origine des termes beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère, etc.
Et ben voilà, une bonne question. Pour le moment, ce sont donc les demoiselles légères du Paris d'autrefois qui nous attendent et la plus célèbre de toutes, Nana.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En marchant l'autre jour dans le quartier de la République, sur le boulevard Jules Ferry, je suis tombé sur une drôle de statue dédiée non pas, comme c'est le cas généralement, à une personnalité célèbre, mais à une figure anonyme du vieux Paris populaire, la Grisette. Cette statue, œuvre de Jean Descons à la fin au tout début, disons plutôt, du XXe siècle, on était à la veille de la Première Guerre mondiale, cette statue représente donc une jeune fille vêtue à la mode du temps de Louis-Philippe, avec à la ceinture des bouquets de fleurs à vendre, une bouquetière en quelque sorte. À Paris, on disait une grisette. La littérature du XIXe siècle a consacré une place non négligeable à cette figure de la vie des quartiers, qu'il ne faut pas confondre, cette grisette, gamine des rues ouvrières, avec la lorette, qui vise un cran au-dessus peut-être, socialement, mais surtout une personnalité d'une autre moralité. C'est ce qu'il va falloir déterminer dans un instant avec Emmanuel Pierrat. Voici la définition que nous donne Becherel de la grisette dès 1846. La lorette a beaucoup d'analogies avec la grisette, dit-il, dont elle se distingue cependant des habitudes de luxe ordinairement ignorées de cette dernière. Et le dictionnaire précise « L'usage a introduit dans la langue le terme de lorette depuis quelques années pour désigner certaines classes de femmes demeurent légères et faciles et adonnées au plaisir. » Et le Larousse confirmera en 1873 « Lorette, on ne parle donc plus là des grisettes, hein, lorette, jeune femme élégante et de mœurs légères, qui se livre à une vie de plaisir et d'intrigues amoureuses. La nana inventée par Zola est-elle une grisette ou bien une lorette? Ça dépend du volume auquel on se réfère dans la série romanesque des Rougon-Macquart. C'est que le grand écrivain naturaliste a consacré à ce personnage qui était déjà apparu dans l'Assommoir le 9e tome entier de la série, un tome qui s'appelle Nana. Le roman de Zola est publié dans un premier temps sous forme de feuilleton. Il n'est pas rare au XIXe siècle qu'un roman soit comme ça publié dans la presse, hein, sous forme de feuilleton. C'était même la façon habituelle de présenter les romans. Dès 1879, il paraît donc dans le journal Le Voltaire et il est présenté d'emblée comme la suite de l'Assommoir. Il sera plus tard publié, enfin quand je dis plus tard, l'année suivante, publié bien entendu sous forme de livre par Georges Charpentier. Nana, tout comme l'Assommoir, sera par la suite adaptée au théâtre, puis au cinéma, à la télévision, et ce qui est très étonnant, c'est de voir l'extraordinaire impact qu'a pu avoir ce personnage sur la mémoire, sur l'opinion, on va dire, sur la mémoire collective des Français. Nana, c'est le soufre, c'est le livre interdit. Vous savez, autrefois, dans les bibliothèques bourgeoises, c'était mis sur l'étagère des ouvrages que les enfants n'avaient surtout pas le droit de consulter, bien entendu. Connaissant un peu le bonhomme, vous vous doutez bien que pour écrire ce roman, Émile Zola s'est largement documenté sur les filles légères de Paris. Au début de 1878, c'est Edmond Laporte, qui est un de ses amis, également ami de Flaubert, de Montpassant, qui va lui fournir des éléments sur le mode de vie de ces femmes. Zola s'imprègne aussi du monde du théâtre. Grâce notamment à Ludovic Halévy, l'auteur avec Meillac d'un certain nombre de livrets d'opérettes d'Offenbach, dont La Belle Hélène, etc. Halévy va fournir à Zola des anecdotes croustillantes. Il le présente à l'actrice Anna Judick, qui va être le modèle de Rose Mignon dans le roman. Le monde du théâtre intrigue beaucoup Zola, il faut le dire. Il l'a d'ailleurs toujours intrigué. Et quand je dis le monde du théâtre, surtout les à côté, surtout les coulisses, surtout ce qui se passe après les représentations. Pour lui, ce livre doit avoir une dimension philosophique. On est dans cette série des Rougon-Macquart dont l'ambition morale est très grande. Voici ce que nous dit Pierre Louiret qui présente Nana dans une édition chez Pocket, dans une édition de poche. Toute une société se ruant sur le cul, une meute derrière une chienne, voilà la formule de Zola, une chienne qui n'est pas en chaleur et qui se moque des chiens qui la suivent, le poème des désirs du mal, le grand levier qui remue le monde, il n'y a que le cul et la religion. Voilà ce qu'écrivait Zola, je ne fais que le citer, je prends tout de suite les devants évidemment. La formule est peut-être un peu hâtive, mais il faut la replacer dans son contexte. À l'époque, et nous verrons ça tout à l'heure bien sûr, la capitale française connaît une véritable explosion démographique pour culminer à 1 million d'habitants en 1840. Or, les filles légères sont très présentes, d'abord dans les quartiers populaires. Ce sont les filles à soldats, les femmes de terrain, des serveuses, des ouvrières d'infortune. Ces filles de noces, comme on les appelle à l'époque, c'est Alain Corbin qui a ressorti cette expression. Ces filles sont sorties du modèle bourgeois de la société, évidemment. Elles sont montrées du doigt par les bourgeoises parisiennes. Elles sont des milliers à guetter le client dans les cabarets ou simplement dans la rue. Elles représentent une source de désordre contre laquelle la société va essayer de se prémunir naturellement. On va mettre des barrières. C'est l'époque où se développent des maisons de tolérance, des maisons closes, dont le but est de précisément contrôler le phénomène. Et l'on peut dire que c'est un monde particulier qui est en train d'éclore. C'est une forme de nouvelle classe sociale en quelque sorte. Pourquoi les filles légères parisiennes ont-elles pris ce surnom de Lorette ? Eh bien, peut-être tout simplement parce qu'elles ont commencé par investir le quartier de Notre-Dame de Lorette entre la gare Saint-Lazare et ce qu'on appelle à l'époque la Nouvelle Athènes, c'est-à-dire le quartier du sud de Pigalle. Au 19e siècle, écrit Emmanuel Pierrat dans son ouvrage Les Lorettes, au 19e siècle, Paris est porté à la dignité de ville-lumière en hommage à l'éclairage au gaz qui illumine dès la tombée de la nuit ses rues et ses passages. Paris a aussi gagné ses galons, de capitale mondiale des plaisirs, un trophée acquis de haute lutte, obtenu à force de persévérance et dans l'affirmation d'un enthousiasme sans cesse renouvelé. Il faut imaginer cette espèce de ferveur qui va attirer vers Paris tous ceux qui veulent, j'allais dire, s'amuser, si l'on veut. La réalité n'est pas toujours à la hauteur de cette image du Paris de la fête impériale. Je cite Zola. Les soirs humides, lorsque Paris mouillé exhalait une odeur fade de grande alcôve mal tenue, la Lorette, en l'occurrence c'est Satin, une amie de Nana, avait bien eu un peu peur, car les rues étaient les plus sales, tout le vernis craquait, la bête se montrait exigeante dans ses goûts monstrueux, raffinant sa perversion. Les 14 chapitres de son roman traiteront donc de la prostitution à la toute fin du Second Empire, puisque l'action se déroule de 1868 à 1870. On est juste à la veille de la guerre franco-prussienne. Pour créer son personnage, Zola s'est inspiré d'une actrice bien connue, Blanche d'Antigny. Ce qui avait rendu Blanche célèbre, c'est d'avoir repoussé les avances de Napoléon III, rendez-vous compte, parce que la tête de l'empereur ne lui revenait pas, disait-elle. Elle avait des chairs généreuses, on la surnommait d'ailleurs Beurre d'Isigny. Quant au surnom de Nana, et il faut bien comprendre qu'il n'a rien à voir avec le terme d'argot Nana, même si ce terme existait déjà au XIXe siècle, bien qu'il fût très peu courant à cette époque. Zola a appelé son héroïne Nana, peut-être tout simplement parce que c'était le prénom qui chante le mieux aux oreilles. Thank you.
Jacques Offenbach, un extrait de La Gaîté parisienne dirigé par Herbert von Karajan. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, votre récit sur la célèbre Nana d'Émile Zola.
Alors, cette Nana, ce roman, Zola s'y attelle au début de l'été 1878. Il a donc 38 ans à cette époque. Et dès le 19 septembre, il écrit à Flaubert « J'ai terminé le premier chapitre de Nana, j'en suis enchanté. Après-demain, je me mettrai au second. » Afin de ne pas interrompre ce bel élan, il va d'ailleurs rompre avec ses habitudes et passer l'automne à Médan. Il ne rentrera qu'en janvier à Paris et c'est à ce moment-là qu'il signe son contrat pour la primo-publication du feuilleton, donc dans un journal, dans le Voltaire. Zola travaille bien en feuilletoniste. Le premier tirage de l'ouvrage en librairie n'en sera pas moins très important, puisque d'emblée, Charpentier tire à 55 000 exemplaires. Nana est devenue célèbre tout de suite. Ça a été tout de suite un immense succès. 55 000 exemplaires pour l'édition de l'époque, c'est beaucoup. Alors, d'où vient ce succès? D'abord, du personnage, évidemment, de cette séductrice. Il faut l'imaginer correspondant exactement à tous les canons de l'époque. Elle est blonde, avec la peau blanche, les yeux bleu clair, des chairs généreuses, vous l'aurez compris. Elle est très coquette, bien entendu, jolie. L'auteur la qualifie de vraie fille. Elle est très sensuelle, elle rend fou les hommes. Et Zola met en évidence cette espèce de puissance d'attraction, hein, cette force du désir autour de Nana, mais plus généralement dans la société. Il y a une sorte de bouillonnement, il y a quelque chose d'étonnant dans ce qui transparaît de ces pages. Nana va passer du bonheur au malheur, hein. C'est une véritable héroïne romanesque, voici ce que nous dit Emmanuel Pierrat. Elle barbote dans un redoutable bouillon de bêtises ataviques, de cruauté et de masochisme, d'imprévoyance crasse, d'immaturité, de déviance sexuelle. Et plus loin, elle est ballottée d'un état à un autre au gré des caprices de la Providence, passant du poisseux rez-de-chaussée d'un faubourg ouvrier au lustre des hôtels particuliers des dignitaires du Second Empire, puis au taudis d'une grisette. Nana connaît chacun des stades rythmant l'inconfortable existence d'une courtisane de haut vol, car c'est bel et bien ce à quoi elle aspire et ce qu'elle va réussir, bien entendu, Nana. Avant tout, n'oublions pas quand même qu'elle est la fille de Gervaise, hein, de Gervaise Macquart et de Coupeau, l'ouvrier, dont l'histoire a été racontée dans l'Assommoir, bien entendu. Le personnage romanesque est censé être né en 1852, donc dans la misère de ce quartier ouvrier, avec cette jeunesse compliquée, hein, qu'on voit dans l'Assommoir. Elle a souvent eu faim, Nana. Elle grandissait, Nana, devenait garce, écrivait déjà Zola dans l'Assommoir. À 15 ans, elle avait poussé comme un veau, très blanche de chair, très grasse, si dodu même qu'on aurait dit une pelote. Oui, c'était ça, 15 ans, toutes ses dents et pas de corset. Il s'était déjà, dès ce premier volume, dès l'Assommoir, il était déjà, en quelque sorte, il s'était épris du personnage. Nana comprend très tôt qu'elle plaît. Il vaut mieux qu'elle comprenne très tôt parce que vous allez voir que son parcours est très court finalement. Elle plaît aux hommes, bien sûr. Je vous ai dit qu'elle était très coquette. C'est compliqué tout ça financièrement, bien entendu. C'est ce qu'on voit dans l'Assommoir. Nana aime plaire aux hommes qui la connaissaient des boulevards extérieurs aux fortifications et de la chaussée de Clignancourt à la grande rue de la Chapelle, écrit Zola. Les dimanches furent pour elle à cette époque des journées de rendez-vous avec la foule, avec tous les hommes qui passaient et qui la reluquaient. Elle les attendait la semaine entière, chatouillée de petits désirs, étouffant, prise d'un besoin de grand air, de promenade au soleil dans la cohue du faubourg endimanché. Tout ça, c'est encore dans l'Assommoir. Or, à 16 ans, c'est le cas de quasiment toutes ces filles, hein. Nous allons voir qu'elles ont un parcours qui se ressemble et qui se reproduit même de génération en génération. À 16 ans, elle laisse ses parents, elle connaît déjà très bien Paris et toute sa complexité sociale. Elle va donner naissance à un enfant, Louis, qu'on appelle Louiset souvent dans le roman. On n'a d'ailleurs pas de détails concrets sur sa vie sexuelle, à part le fait qu'elle soit morte à 16 ans. On ne sait pas de qui est Louiset. Sa tante lui demande au début du roman qui est le père et Nana répond seulement d'un monsieur. Et réponse de la tante, tiens, on prétendait que tu l'avais eu d'un maçon qui te battait. Enfin, tu me raconteras ça un jour, tu sais si je suis discrète. En fait, on n'en saura pas plus dans Nana. Zola va montrer tout au long de ce roman que malgré ses mésaventures, Nana a toujours la capacité de retomber sur ses pieds, en quelque sorte. Mais qu'elle laisse perpétuellement passer sa chance. Est-ce que ça n'est pas précisément une forme d'atavisme? Au début du roman, Zola nous la montre dans la gêne, elle a vraiment besoin d'argent pour élever son fils, et la solution, c'est la prostitution. Alors elle va faire des passes pour essayer d'avoir un petit peu d'argent. Au début du roman, son fils est chez une nourrice dans un village près de Rambouillet. Elle cherche à tout prix à trouver les 300 francs que lui réclame la nourrice pour lui rendre son enfant. Et Louiset ira ensuite habiter chez la tante de Nana, Madame Le au Batignol, c'est là qu'il va mourir à l'âge de 3 ans. Et elle gagne sa vie, mais comme elle peut, notamment comme comédienne. Disons-le, elle est très mauvaise comédienne, elle ne sait pas du tout parler comme on doit le faire au théâtre, elle ne sait pas chanter, mais seulement, elle a quelque chose de beaucoup mieux. Elle a cette extraordinaire sensualité, évidemment, qui enflamme le parterre. Zola ouvre le roman sur la représentation d'une pièce pseudo-mythologique au théâtre des Variétés, dans laquelle elle joue le rôle de Vénus. C'était toujours la même voix vinaigrée, écrit-il, mais à présent elle grattait si bien le public au bon endroit qu'elle lui tirait par moments un léger frisson. Nana avait gardé son rire qui éclairait sa petite bouche rouge et luisait dans ses grands yeux d'un bleu très clair. À certains vers un peu vifs, une friandise retroussait son nez dont les ailes roses battaient pendant qu'une flamme passait sur ses joues. Elle continuait à se balancer, ne sachant en faire que cela, et on ne trouvait plus ça vilain du tout. Au contraire, les hommes braquaient leurs jumelles. Comme elle terminait le couplet, la voix lui manqua complètement. Elle comprit qu'elle n'irait jamais au bout. Alors, sans s'inquiéter, elle donna un coup de hanche qui dessina une rondeur sous la mince tunique, tandis que la taille pliée, la gorge renversée, elle tendait les bras. Des applaudissements éclatèrent. Et voilà comment ça se passe, finalement. Elle a trouvé un bon succès d'année au talent de comédienne qu'elle n'a pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue, cette Nana. Le comte de Vandœuvre demande dans le roman au journaliste Fauchery, on est juste pas au moment de cette représentation, « Dites donc, mon cher, cette Nana, c'est pour sûr bien elle que nous avons vue un soir au coin de la rue de Provence. « Tiens, vous avez raison, je me disais bien que je la connaissais », répond Fauchery. Le journal lui va donc publier un portrait d'elle. La chronique de Fauchery, intitulée « La mouche d'or », était l'histoire d'une fille née de 4 ou 5 générations d'ivrognes, le sang gâté par une longue hérédité de misère et de boisson, qui se transformait chez elle en un détraquement nerveux de son sexe de femme. Elle avait poussé dans un faubourg sur le pavé parisien, et grande, belle, de chair superbe, ainsi qu'une plante de plein fumier, elle vengeait les gueux et les abandonnés dont elle était le produit. Voilà bien non seulement le propos, mais voilà évidemment aussi le style, la gouaille que s'est permise Zola dans ce roman devenu tellement mythique dans Nana.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur la Nana d'Émile Zola.
Eh oui, alors cette Nana, vous comprenez bien qu'elle est mal dans sa peau. Hein. Elle commence au départ, elle est une véritable lorette. Elle habite un riche appartement que lui a offert un marchand de Moscou. Elle va organiser son emploi du temps en fonction de ses contraintes d'argent, avec le minimum d'égards pour ses différents amants. Elle reçoit une foule de visiteurs et, disons-le, de parasites. Plus tard, elle se mettra en ménage avec un homme qu'elle aime, le comédien Fontan. Alors là, changement de standing. Ils vont s'installer dans un petit logement au 4e étage pour essayer d'échapper le plus possible aux créanciers. Plus on habite haut, moins les créanciers montent facilement les étages. Fontan se révèle un homme violent, brutal. Il la met à la porte et à ce moment-là, elle se console avec celle dont je parlais tout à l'heure, avec cet autre personnage de Satin. Ce sont peut-être d'ailleurs les scènes entre ces deux femmes qui ont fait le très grand succès du livre. À l'époque. Elle était touchée, elle rendait à Satin ses caresses, écrit Zola. Lorsque 2 heures sonnèrent, la bougie brûlait encore, toutes deux avaient de légers rires étouffés avec des paroles d'amour. Elle renoue avec ses pires habitudes, Nana. On la voit fréquenter les quartiers les plus déplorables de la capitale, où elle fait des passes minables, elle revit les coins noirs des boulevards extérieurs, les bornes sur lesquelles des hommes à 15 ans l'embrassaient, à l'époque où son père la cherchait. Elle renoue avec tout ça jusqu'au moment où elle se donne au comte, alors ça va être fondamental, c'est le tournant, au comte Muffat, grand dignitaire du Second Empire, un monsieur très bien en apparence, n'est-ce pas, qui est marié et qui va l'installer avenue de Villiers au coin de la rue Cardinet, donc dans un quartier tout à fait de luxe, le quartier très à la mode à l'époque. Elle exige une liberté entière de maîtresse de maison, elle exige qu'on respecte ses volontés, ça c'est très important dans l'affirmation d'une forme d'émancipation féminine, on va y venir tout à l'heure avec Emmanuel Pierra évidemment. La seule chose que Muffat exige de sa maîtresse, c'est une fidélité absolue. Elle lui jure cette fidélité. Évidemment, il faut imaginer ce que valent ces serments. Ces serments, oui, c'est bien ce que je dis. En vérité, elle est totalement légère. Elle reçoit beaucoup, elle reçoit trop. Il y a énormément de cynisme chez ce personnage qui, d'une certaine manière, se venge peut-être de l'enfance qu'elle a eue. On la voit ruinée, humiliée, pillée ses conquêtes. Certains vont jusqu'au suicide. C'est une sorte de, en quelque sorte, ce que vit Nana, c'est une sorte de vengeance. Et l'on se demande jusqu'à quel point, à travers elle, il n'y a pas chez Zola une forme également de satisfaction, une forme de jubilation à voir s'avilir un certain nombre des grands personnages de l'époque. Un certain Daguenet fait partie de ses amants. C'est un homme très gentil. Lui, il s'occupe d'affaires pas très importantes à la bourse pour payer ses dîners et ses différentes femmes. Nana est moins attentive envers un certain nombre d'autres. Je pense à Steiner qu'elle amène à la ruine, Hugon qui va tenter de se suicider, etc. Elle est devenue une sorte de son salon en tout cas est devenu une sorte de plaque tournante de la mondanité parisienne, plus exactement de ce qu'on appelait le demi-monde bien entendu. Elle reçoit, elle donne de grands dîners où l'on voit se presser un certain nombre de membres de la haute société. Depuis le matin, écrit Émile Zola, Zoé avait livré l'appartement à un maître d'hôtel venu de chez Brébant avec un personnel d'aides et de garçons. C'était Brébant qui devait tout fournir, le souper, la vaisselle, les cristaux, le linge, les fleurs, jusqu'à des sièges et à des tabourets. Nana n'aurait pas trouvé une douzaine de serviettes au fond de ses armoires et n'ayant pas encore eu le temps de se monter dans son nouveau langage, dans ce nouveau lançage, dédaignant d'aller au restaurant, elle avait préféré faire venir le restaurant chez elle. Elle est très présente dans la vie du Paris de l'époque, telle que l'imagine Zola. Au Grand Prix de Paris, par exemple, il y a carrément une pouliche qui porte son nom. Ce cheval a été offert par Muffat. On peut dire que on est au sommet pour elle, d'une certaine façon, parce qu'il faut imaginer la tribune entière qui crie « na, 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 na ». C'est le cheval qu'on encourage, mais c'est bien elle qu'on acclame, d'une certaine façon. Et puis la roue tourne. Bien entendu, ce triomphe-là est très éphémère. On peut dire qu'évidemment, Nana va connaître ensuite la relégation, l'oubli. Alors c'est le moment où elle commence à voyager. On la retrouvera en Égypte, au Caire. Ensuite, elle rejoint la Russie, où l'on dit qu'elle aurait rencontré un prince. On parle de diamants, de bagues, de boucles d'oreilles, de bracelets d'une rivière large de deux doigts, un diadème de reine surmonté d'un brillant central gros comme le pouce. Est-elle riche, est-elle pauvre? Ce qui est certain, c'est que lorsqu'elle rentre en France, elle est très malade, elle est atteinte de la petite vérole et qu'elle va mourir à l'âge de 19 ans. Bonjour Emmanuel Pierra.
Bonjour.
Nana n'est qu'un exemple, mais quel exemple, hein. Évidemment, Zola a surchargé son personnage de tous les archétypes de ces femmes légères du Paris de l'époque. Nous y revenons en votre compagnie dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire avec les Lorettes à l'honneur cet après-midi. Avec vous Franck Ferrand et votre invité Emmanuel Pierra, avocat spécialisé dans le droit et la culture, écrivain, auteur des Lorettes, Paris capitale mondiale des plaisirs au 19e siècle aux éditions Le Passage.
Tout est là justement Emmanuel Pierra, bonjour.
Bonjour.
Vous nous dites que Paris était la capitale mondiale des plaisirs à cette époque, à partir du premier tiers du 19e siècle.
Oui, elle le devient, alors comme vous l'avez très justement souligné tout à l'heure Franck Ferrand, elle le devient aussi parce qu'elle devient la ville lumière et que l'éclairage public, le gaz, le fameux allumeur de réverbère, cette mythologie est très importante et qu'elle va donner un statut à Paris que Paris avait porté déjà en germe, évidemment.
Paris ville lumière, c'est bien avant la fée électricité, hein, c'est bien avant 89 et même 1900, on est grâce au bec de gaz.
On est en plein 19e siècle, oui, oui. Donc, et on passe d'une ville, on va dire quasi médiévale la nuit, hein, c'est-à-dire elle est plongée dans l'obscurité, à une ville qui va devenir une féerie pour toute l'Europe et qui va attirer les uns et les autres, qui au bal, qui qui dans une maison close, qui dans un restaurant, qui à l'opéra.
Tout est en train, dans cette période qui va suivre la Révolution et l'Empire, on invente de nouveaux plaisirs. Le bal, vous en parlez, avec toutes sortes de maisons qui accueillent des soirées qui se prolongent jusque tard dans la nuit. Le restaurant aussi. Avant, lorsqu'on voulait faire un grand dîner, il fallait avoir un cuisinier et du personnel chez soi. Maintenant, on peut se permettre d'aller au restaurant.
Oui, ou à défaut, on se retrouvait dans une auberge plus ou moins malfamée ou crasseuse. Et d'un seul coup, on a cette invention extraordinaire qui permet de ne pas recevoir chez soi et pourtant de prendre du plaisir à table et de recevoir agréablement ses amis. Et tout ça conjugué va former un pari extraordinaire qui va faire évidemment le miel des romanciers. Cette nana que vous comptiez si bien, elle contient tous les ingrédients de ce que Paris peut offrir d'un seul coup à l'Europe et même à la planète entière.
Oui, ça va des grands dîners aux courses de chevaux, les soirées, le théâtre, l'opéra, il ne faut pas oublier. C'est pas l'opéra Garnier tel que nous le connaissons, isolé sur sa grande place de l'opéra. C'était un opéra qui était au milieu du tissu urbain à l'époque.
Oui, il est à l'époque dans une rue qui s'appelle la rue Le Pelletier. Et il est enchâssé véritablement par au milieu des autres immeubles. Et il a cette particularité qu'on y fait la fête, en quelque sorte. On s'y montre au bras de ses nouvelles conquêtes. Et puis, une fois par an, l'opéra donne un bal extraordinaire qui est celui où il faut absolument...
Alors ça, c'est une vieille tradition qui remonte au XVIIIe siècle. Hein.
Mais elle est portée encore au XIXe siècle. Elle mourra avec la naissance du nouvel opéra, celui de Charles Garnier, effectivement. Mais le bal de l'opéra, on va dire, deviendra l'acmé, en quelque sorte, le point le plus culminant de ce Paris des plaisirs. Avec cette chose un peu extraordinaire, qui est une géographie dont on reparlera peut-être, qui est totalement un urbanisme, qui est bouleversé par ce nouveau Paris du XIXe siècle, avant même que le baron Haussmann ne décide de le changer.
On est au moment, on va dire, des travaux du baron Haussmann, mais déjà la géographie parisienne change.
Hein. Oui, il y a une chose assez extraordinaire, en tout cas pour ce qui concerne les plaisirs et les filles, et puis le théâtre, parce que tout ça est mêlé.
Elles sont où toutes ces filles, c'est ça hein,
elles sont beaucoup au Palais Royal. Historiquement, elles sont dans le quartier du Palais Royal, autour donc du Palais Royal, de ce que deviendront les jardins du Palais Royal. Ainsi que le théâtre, qui est cantonné là, on dit, alors certains disent depuis Saint-Louis, il y a plusieurs en version, on va dire, plus ou moins historiquement juste, mais en gros, globalement, l'idée est là. Tous les plaisirs qui sont interdits ailleurs dans le royaume ou dans la République ou l'Empire français, peu importe, ont été autorisés pendant 10 siècles dans cet écrin réservé.
C'est d'ailleurs l'origine du mot bordel. Hein. C'est une toute petite parenthèse, mais c'est que Saint-Louis avait relégué ces maisons-là au bord de l'eau, bordelio, comme on disait au Moyen-Âge. Et donc, c'est l'origine du mot, en fait.
Et tout se retrouve condensé donc dans ce Palais Royal jusqu'à ce qu'on décide de faire éclater les barrières et donc d'un seul coup de déréglementer, d'autoriser les plaisirs à sortir de ce quartier du Palais Royal. C'est ainsi que dans la géographie d'aujourd'hui à Paris, on peut encore trouver le passage notamment par exemple des théâtres qui vont vers les grands boulevards, les boulevards des Italiens, le boulevard des Capucines. Les variétés amusantes deviennent les variétés. La Comédie Française va plus ou moins se fixer pour de bon comme ça sur l'Ouest. Les grands théâtres, les Bertaux, Édouard VII, ainsi de tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme endroit qui attire provinciaux et parisiens. La presse, qui est cantonnée également dans ce quartier réservé, va partir vers la rue du Louvre, vers l'Est parisien. Elle s'installera, l'Humanité, l'Aurore, le Figaro. Alors aujourd'hui, les journaux sont un peu repliés un peu partout, mais ils ont été beaucoup concentrés. Les théâtres, donc j'en ai parlé, mais surtout il y a un autre phénomène, c'est le jeu d'argent qui est au Palais Royal et cantonné. La spéculation sur l'argent et qui deviendra évidemment la bourse en montant vers le nord de Paris. Les établissements bancaires, financiers sont toujours installés, des grandes banques au même endroit.
Mais tout ça, ça va être évidemment le creuset de l'œuvre de Zola, mais de la monarchie de Juillet au Second Empire, il ne faut pas oublier qu'on est dans la naissance d'une très grande puissance capitaliste, industrielle, coloniale, qui réunit, qui concentre les richesses et donc qui fait affluer vers la capitale, d'une part tous les provinciaux qui ont besoin de venir à Paris pour leurs affaires et puis des gens du monde entier. Donc il y a une concentration aussi de clientèle masculine, si je puis dire, à la recherche de plaisir. Parce qu'une fois qu'on a fini ses affaires, qu'il est 17 ou 18 heures, eh bien on commence à chercher à s'amuser, n'est-ce pas, jusqu'au lendemain matin.
Et l'amusement va se retrouver dispersé dans trois géographies distinctes qui correspondent aux différentes castes de prostituées. Donc on y reviendra sans doute. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tout ça se conjugue évidemment en fond de toile avec la révolution industrielle. L'industrialisation, l'usine, vous parliez tout à l'heure des tirages de l'édition, 55 000 exemplaires pour la première édition de Nana. l'artisanat, on passe d'un seul coup d'une édition artisanale, oui. Voilà, à une édition véritablement industrielle, à la manufacture de livres. Les grandes presses, là, l'offset, l'imprimerie, etc., tout ça, les journaux, tout ça explose avec des chiffres faramineux et fait des chiffres financiers absolument colossaux.
Alors, je disais tout à l'heure que Zola appelait sa nana une vraie fille. Ça n'a rien à voir avec le genre, là, même n'en déplaise au débat en
c'est une
la
fille,
mode.
C'est une fille.
Quand on dit fille, c'est au sens fille de mauvaise vie, c'est ça l'idée.
Oui, c'est hein. une fille des rues, quasiment. Alexandre Dumas, père, parce qu'Alexandre Dumas, fils, s'est beaucoup intéressé également à ses filles, a écrit un petit livre qui s'appelle Fille, Lorettes et Courtisanes, qui décrit assez bien donc, ce qu'on peut entendre par le mot fille.
Alors, venons-en peut-être à ces appellations, justement, et au contenu de chacune de ces catégories. J'ai commencé l'émission en évoquant la grisette. La grisette, c'est encore la figure positive, familière, sympathique des faubourgs parisiens, en quelque sorte.
La grisette, c'est une ouvrière. Essentiellement. Alors, elle travaille dans les petits métiers de la mode, elle est passementière, elle est plissière, elle est drapière,
mercière,
etc.
Enfin, voilà,
il y a une boutonnière, il y a un nombre de professions absolument incroyables qui existent. Et puis, comme les 10 jours sont difficiles, les mois à boucler sont très 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 compliqués. Il va falloir rajouter un petit peu comme ça de beurre aux épinards en accordant ses faveurs à un petit client, un ouvrier, un petit commerçant.
Alors c'est né ça sous la restauration essentiellement, on avait les bouquetières parce que c'est assez pratique pour aborder les gens quand on a des fleurs à vendre. En vérité, elles n'avaient pas que des fleurs à vendre, ces petites grisettes.
Non, elles avaient leurs fleurs à vendre.
Ben oui, bien
donc,
sûr.
Et ces grisettes, elles sont considérées par tous les littérateurs de l'époque qui nous permettent de mieux les comprendre comme vertueuses, par opposition à ces fameuses lorettes auxquelles on viendra.
En quelque sorte, ce sont celles qui ne peuvent pas faire autrement et que la misère pousse dans ce qu'on appelle, pour reprendre toutes les terminologies de l'époque, que la misère pousse au vice.
Hein, exactement, que la misère pousse au vice, c'est la bonne formule. Et donc, elles sont parées de toutes les vertus. Elles ont le courage, elles élèvent une famille, etc. Même si, malgré tout, à partir de 5 heures, effectivement, elles lavent la jambe. Et ce, par opposition avec cette autre catégorie, les lorettes, va être considérée comme habitées par le vice, véritablement ayant le démon.
Sont les professionnels, les lorettes, en quelque sorte, c'est ça ?
C'est mieux que des professionnels, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ont ce goût particulier des artistes aussi. Elles ont à la fois un mécène, qui est un riche industriel, né donc de cette fameuse révolution industrielle, et puis elles ont l'amour des arts. Elles se piquent de jouer quelques vers au théâtre, de poser pour un peintre, de chanter quelques mélodies, et donc elles sont entichées de nos littérateurs. Elles se sont entichées des frères Goncourt, elles se sont entichées d'Alexandre Dumas père.
Elles ont fait la fortune d'un certain nombre de ces grands littérateurs.
Et donc, tout ça est emmêlé et elles les fréquentent beaucoup et elles vont habiter dans ce fameux quartier de Notre-Dame-de-Lorette, de la Nouvelle-Athènes, du quartier Saint-Georges à Paris. Elles vont cohabiter véritablement avec les écrivains et les artistes. Donc, elles sont un peu comme des geishas du 19e siècle parisien, si j'ose un rapprochement audacieux.
Sans la dimension cérémoniale, quand même.
C'est pour ça que je disais bien audacieux.
Mais alors, ces lorettes, elles vont évidemment devenir de grands personnages de fiction. C'est-à-dire que notre littérature du 19e siècle est pleine de la Valérie Marneffe de Balzac à la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils. Notre littérature est pleine de ces figures-là, en fait.
Oui, bien sûr, parce que il y a une conjonction de hasard formidable. À la moitié du 19e siècle, on décide, fort de cette nouvelle bourgeoisie industrielle qui est arrivée, donc de ces nouveaux riches, on décide de leur construire des appartements. Et on décide de créer un nouveau quartier dans Paris, qu'on va appeler donc le quartier Saint-Georges, pour simplifier, qui est aujourd'hui le 9e arrondissement de Paris. Et ce quartier est conçu pour loger ces nouveaux riches, avec des appartements qui sont assez luxueux pour l'époque. La difficulté, c'est que les nouveaux riches ne veulent pas habiter là, ils veulent habiter avec les anciens riches.
Et voilà, bien sûr, c'est toujours la même histoire.
Ils vont se nommer pendant une dizaine d'années ces appartements que les ouvriers ne peuvent pas non plus s'offrir.
Donc il faut bien les remplir, ces beaux appartements.
Et les seuls qui vont pouvoir, en quelque sorte, s'offrir ces loyers assez confortables, ce sont des écrivains en voie de reconnaissance, des poètes, des musiciens, des littérateurs, et puis ces filles qui sont dans une catégorie où elles ont déjà quitté le statut de grisette sans pour autant vraiment être devenues de véritables lionnes ou des courtisanes, de grandes courtisanes.
Alors justement, qu'est-ce qu'on appelle une lionne?
En deux mots. La hiérarchie est assez simple. Hein, donc grisette en premier stade, oui, qui devient lorette, c'est-à-dire une femme indépendante,
femme
qui fréquente
entretenue,
des artistes entretenus. Et puis elle finit par attraper ce qu'elle appelle un Arthur. Un Arthur, c'est donc un riche mécène dont elle va avoir...
souvent est un grand dignitaire, enfin bon.
Dont elle va avoir l'exclusivité et par qui elle va se faire payer, financer la construction d'un hôtel particulier, notamment sur les Champs-Élysées, qui à l'époque sont encore en friche.
On ne parle pas encore de cocotte à l'époque. Hein.
On ne parle pas encore de cocotte ni de grandes horizontales, mais on n'en est pas loin.
Oui, ça ce sera pour la période de Liane de Pougy, etc. La Belle Otero, on a envie de dire, c'est le chapitre suivant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale de la série française Maison Close. Nous sommes au cœur de l'histoire des grisettes, lorettes et autres courtisanes. Avec vous, Franck Ferrand et votre invité, Emmanuel Pierrat, avocat spécialisé dans le droit à la culture, écrivain, conservateur au Musée du Barreau de Paris et auteur des Lorettes, Paris, capitale mondiale des plaisirs du 19e siècle, aux éditions Le Passage.
Alors justement, les maisons closes, Emmanuel Pierrat, ne sont pas au cœur de notre affaire, puisqu'elles sont un phénomène en quelque sorte marginal, et d'ailleurs en grande partie plus tardif et nettement plus provincial, il faut dire tout ça peut-être.
Oui, c'est vrai que a priori, les filles dont nous parlons, ces Lorettes, ces courtisanes, hein, etc., sont des filles qui ne sont d'ailleurs pas sous la tutelle d'un macro.
Elles ont un protecteur, mais c'est un protecteur pour leurs moyens financiers, etc.
C'est un vrai protecteur.
Un
financier dans le bon sens du terme.
Et puis elles ont quand même quelques aventures de passage, ce qu'on appelle les amants de passage, et puis elles ont l'amant-cœur, généralement.
C'est, voilà, exactement. Vous avez assez bien décrit leur panorama.
Ce qu'on retrouve dans le théâtre de l'époque, hein, bien entendu, partout, constamment, et même jusque dans l'opéra par le biais de la Dame aux Camélias. Mais enfin, ça, il faudra un peu de temps pour y arriver. Alors, ce qui m'a toujours frappé lorsqu'on observe la vie de ces femmes, c'est qu'on a l'impression que cette vie obéit à des tropismes très forts et que ce sont un peu toujours les mêmes étapes et un peu toujours les mêmes destins. Ça commence toujours plus ou moins dans le caniveau, ça monte très haut, il y a des allers-retours, il y a un passage par l'étranger et puis ça refinit quasiment là où ça avait commencé.
Il y a quelqu'un qui nous a bien renseigné sur ça et qui a servi beaucoup à tous les écrivains du 19e siècle, qui s'appelle Parent du Châtelet. Et Parent du Châtelet a écrit un grand livre qui s'appelle « De la prostitution dans la ville de Paris ». Et il a fait la première grande enquête, on va dire, c'est un hygiéniste, hein, c'est un médecin spécialiste de l'hygiène, il a découvert le scorbut, enfin comment on peut, il a identifié le premier le scorbut, la maladie des marins, et il est préoccupé par le sort de ces filles qui meurent assez jeunes de maladies vénériennes. Et il décide de les interroger les unes après les autres. D'où viennent-elles? Quel âge ont-elles? Il les mesure. Il fait des tas de classifications et puis il écrit ce livre extraordinaire dans lequel on comprend un peu leur destin. Et le côté aussi un peu héréditaire de la fatalité qui leur tombe dessus comme ça de génération en génération. Et effectivement, elles ont toutes à peu près les mêmes parcours. Donc elles commencent comme un peu comme avec un petit métier d'ouvrière, de passementière, en faisant quelques passes. Elles se piquent un peu au jeu parce que l'argent est plus facilement gagné, c'est vrai. Elles vont donc pendant quelques années virevolter dans cette espèce d'entre-deux mondes avant d'espérer, pour les plus chanceuses, accrocher un riche mécène qui va donc leur construire ce fameux hôtel particulier. Il y en a des traces encore dans Paris.
Oui, bien sûr.
Et toujours amusante.
On pense toujours à la Païva, bien entendu, mais elle n'est pas la seule, hein, bien sûr.
Voilà. La mairie du 9e arrondissement, aujourd'hui on célèbre des mariages, d'ailleurs pour tous et pour toutes, a été très longtemps l'hôtel particulier construit pour une lorette devenue courtisane, hein, qui n'a pas vraiment voulu quitter son quartier d'origine. Ouais. Voilà, il y a comme ça des choses... une puissance extraordinaire de volonté chez ces femmes qui ne sont pas dominées par un seul homme.
Alors ça veut dire que ce sont peut-être parmi les premières femmes un peu libres. Est-ce qu'il y a cette dimension émancipatrice chez les Lorettes ?
Oui, avec cette, elles ont la volonté. Et puis il y a des expériences racontées par des littérateurs qui nous disent assez bien qu'elles peuvent être pour certaines très saintes et pour d'autres avoir une très grande conscience politique, être un peu des précurseuses, des suffragettes avant l'heure. Et quand on regarde leur statut social, elles sont les seules femmes à véritablement jouir pleinement de leurs droits, à avoir revendiqué leur indépendance, à la différence des autres ouvrières ou des autres bourgeoises.
Et donc là, il y a quelque chose de... Elles sont à l'avant-garde de quelque chose, on peut le dire.
Elles se veulent maîtresses de leur destin.
Ce qui fait que très souvent, elles rompent avec leur famille très très jeune, mais il faut dire que les familles en question sont souvent assez épouvantables, et qu'elles rompent avec chacun des mécènes qui voudraient les mettre définitivement sous sa coupe.
C'est assez juste. Et aux grandes dames, d'ailleurs, de tous ces messieurs qui ont écrit ensuite ou soufflé à certains écrivains les gifles, en quelque sorte, qu'ils ont prises dès qu'ils aient voulu leur faire jurer la fidélité et les enfermer. Ouais. Ce sont des filles véritablement indépendantes. Elles ne leur manquaient quasiment que le droit de vote.
Et pourtant, Dieu sait qu'elles sont profondément haïes, honnies, rejetées non seulement par les femmes honnêtes, ce que dans le jargon on appelle les veaux, n'est-ce pas, mais aussi par tous ceux qui peuvent écrire ou penser sur le sujet à l'époque. La réprobation morale est totale.
Oui, même chez ceux qu'on pourrait penser être plutôt du côté de ces femmes, que ce soit Zola avec Nana ou Alexandre Dumas-fils avec la dame au camélia qui viendra la Traviata, elles doivent toutes obligatoirement être rattrapées par une morale sous forme de maladie vénérienne.
Oui, c'est ça. Comme s'il y avait la punition au bout du chemin d'une façon obligatoire. Et sur cette terre, vous écrivez dans un siècle où la nouvelle élite bourgeoise a érigé le profit en valeur suprême au motif que la Révolution avait balayé les anciennes valeurs rancies incarnées pendant près de deux millénaires par l'Église et la noblesse, et fixe son emprise sur la nation en achetant l'État, la police et le clergé, en maintenant le prolétariat dans des conditions d'existence aussi épouvantables que celles où croupissait la paysannerie sous l'Ancien Régime, en lui interdisant et la démocratie et l'accès à l'éducation, conspuer le soi-disant cynisme de la Lorette laisse songeur.
Oui, il y a un discours, on va dire, à la fois cynique et très lucide des Lorettes que détestent les gens qui les entourent.
Oui, discours de vérité, tout simplement. Hein.
C'est un véritable discours de vérité, effectivement. Et puis, tout ça, quand même, va se situer jusqu'à une période qui nous emmènera quasiment à la Commune de Paris. Hein. Donc, on est dans les prémices de mouvements à nouveau insurrectionnels ou quasi-révolutionnaires.
Ce qui m'étonne le plus, peut-être, justement, pour ne pas parler ensuite de ce qui va se passer avec ces grandes allongées auxquelles vous faisiez allusion.
Les grandes
horizontales de l'époque de Proust, etc. Mais ça, c'est un phénomène qui est la prolongation du précédent, mais ce n'est pas tout à fait le même. Mais si l'on reste au XIXe siècle, essentiellement sous le Second Empire, on est surpris par l'appartenance sociale des grands clients de ces dames. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne peut pas à l'époque être ministre, recteur, directeur d'une grande institution, banquier d'importance, sans avoir forcément une dame à entretenir.
Oui,
Ça fait partie du statut social.
Ça existe dans certains endroits de la planète. Il y a une expression que j'aime bien, qu'on utilise en Côte d'Ivoire, qu'on n'y voit aucune stigmatisation de la Côte d'Ivoire, qui est le deuxième bureau, qui consiste à dire je vais à mon deuxième bureau pour indiquer qu'on va voir sa maîtresse. Et c'est un peu ça. Il y a un deuxième bureau obligatoire, avec ce deuxième bureau étant donc encore une fois très très farouche et très indépendant, et fera largement, on va dire, payer à ces hommes, à ce statut social, ce que eux croient lui faire payer. Il y a aussi cette chose qui est accélérée à l'époque, évidemment, sans les médias d'aujourd'hui. Il y a des phénomènes très intéressants à observer que décrivent bien les écrivains, avec notamment la façon dont ces hommes peuvent se mettre en valeur avec les lorettes ou des courtisanes à leurs bras.
Bien sûr,
ça les flatte. Et là,
aux courses notamment, c'est très frappant. Hein.
Aux courses et aux balles.
Et au bal.
Il suffit d'apparaître au bal Mabille, qui est situé des Champs-Élysées, tenu par les frères Mabille qui ont transformé l'entreprise familiale de salon de thé en un lupanar absolument incroyable. Il suffit de se présenter au bal Mabille, donc bien accompagné, pour être assuré de faire la une des journaux dès le lendemain.
Ouais. Enfin, en tout cas, certains journaux, oui.
Bon,
alors, ce qui est frappant, c'est l'hypocrisie, finalement, de tout ce milieu et de tout ce système. Quand on vous lit, c'est peut-être ce qu'on retient principalement, c'est-à-dire Zola lui-même, lorsqu'il écrit Nana, veut dénoncer certaines réalités sociales, veut montrer comment certaines causes sociales produisent certains effets. Hein, c'est toute la pensée, toute la, l'ambition naturaliste d'un Zola. Mais disons-le clairement, il vend du papier parce qu'il il en appelle à ce qu'il y a de plus sulfureux et aux curiosités les plus malsaines de la nature humaine. Et il joue dessus et il en fait même, si j'ose dire, des tonnes.
Bien sûr, il est partagé entre la dénonciation sociale que porte le naturalisme
et la franche complicité.
Et la franche complicité, le fait effectivement que la sexualité vue sous cet angle-là fait vendre. Et de fait, le tirage de Nana est beaucoup plus important que celui des romans qui y ont précédé dans la série des Rogon-Macquart.
Emmanuel Pierra, Les Lorettes, Paris, capitale mondiale des plaisirs au XIXe siècle. C'est un ouvrage complet, fourmillant, écrit toujours avec cette grande liberté qui vous caractérise et c'est édité par Le Passage.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck, à la question de Dominique qui nous l'envoyait sur la page Facebook de l'émission, qui voudrait que vous lui expliquiez pourquoi dit-on belle-mère, beau-père, belle-sœur, etc.
Alors je suis allé feuilleter le DOSA, vous savez, qui nous renseigne, c'est un dictionnaire de l'avant-guerre qui nous renseigne sur l'origine des mots français. Et il semblerait qu'autrefois, on n'ait pas utilisé ces termes-là pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui un beau-fils, on parlait de filâtre. La belle-mère, c'était la marâtre. Le beau-père, c'était le parâtre, A-S-T-R-E, un parastre, si vous voulez. Bon. Sauf que ces mots-là se sont peu à peu chargés d'une connotation suffisamment négative, suffisamment péjorative pour qu'on ait envie d'en changer. La marâtre, vous avouerez que c'était pas très sympa, forcément. Et donc, on s'est mis à parler de beau-père, de belle-mère. Alors ça n'a rien à voir avec la beauté physique, évidemment. Hein. C'est un terme du Moyen-Âge qu'on rencontre dès le Xe siècle et qui était un terme tout simplement pour marquer l'affection, pour marquer le respect. Par exemple, au XIIIe siècle, Joinville nous dit que lorsqu'il s'adresse à son fils, Saint-Louis l'appelle mon bio-fils. Vous voyez, le beau, c'était l'équivalent de chair, si vous voulez. Et donc, belle-mère, c'était la chère-mère. Et d'ailleurs, au XIVe siècle, on emploie beaucoup le terme de bon-père et bonne-mère plutôt que beau-père et belle-mère. Vous voyez, donc tout ça a évolué avec le temps. Alors, il y a des termes qui disent la même chose. Il y a un mot d'origine gothique, bru pour dire la belle-fille, hein, et puis gendre du latin generum pour dire pour parler du beau-fils, avec cette petite subtilité puisque les anglo-saxons, vous savez, eux rajoutent in-law, hein, c'est plus simple, brother-in-law, sister-in-law, c'est peut-être plus clair. Le beau-père c'est father-in-law et sinon c'est step-father pour parler du second mari de la mère. On distingue beaucoup mieux qu'en français. Bon ben chez nous on a pris l'habitude de dire comme ça, beau-père, belle-mère. Alors, sur les belles-mères, j'aurais beaucoup à vous dire, mais ça nous entraînerait vraiment très très loin.